Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Église doit parcourir toujours plus le chemin du dialogue et intensifier sa coopération avec tous ceux qui partagent sa volonté de construire des ponts d'amitié. Le pape François l'a réaffirmé ce lundi. L'écuménisme et le dialogue interreligieux seront d'ailleurs au cœur de cette émission, à quelques jours du pèlerinage du successeur de Pierre en Terre Sainte. Vous entendrez un dominicain en charge du dialogue avec les orthodoxes et une bénédictine responsable du dialogue interreligieux monastique. Nous verrons par ailleurs que l'actualité était encore une fois très chargée ce lundi au Vatican, compte rendu détaillé dans ce magazine. L'événement de la semaine qui vient de s'ouvrir, c'est le pèlerinage que le pape François va effectuer en Terre Sainte. Un pèlerinage qui aura une forte connotation écuménique et qui sera marqué par plusieurs rencontres entre le Saint-Père et le patriarche de Constantinople, Bartholoméos Ier. Le pape François a du reste clairement indiqué que le but principal de son voyage était de commémorer le cinquantenaire de la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche Athénagoras, une première depuis le schisme de 1054, et de favoriser le rapprochement entre catholiques et orthodoxes, confrontés à de nombreux défis, mais affaiblis par leur division issue de l'histoire et par leur rivalité territoriale, notamment au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Parsemé de rencontres, de rapprochements, de discussions et d'avancées doctrinales, ce vaste chantier du dialogue s'est quelque peu essoufflé. Certains replis identitaires n'y sont pas étrangers. Reparcourons le fil de ce dialogue écuménique avec le père Hyacinthe d'Estivel, dominicain, en charge du dialogue avec les orthodoxes au sein du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Cette rencontre entre le pape Paul VI et Athénagoras il y a 50 ans, elle a été vraiment le point de départ de tout un chemin qu'on a appelé le dialogue de la charité, qui a conduit à la levée des anathèmes, qui a conduit à des rencontres réciproques, à toute une correspondance d'amitié spirituelle entre Paul VI et Athénagoras, qu'on a appelé le Thomas Agapis, le livre de la charité, puis le dialogue de la vérité, c'est-à-dire le dialogue théologique qui a commencé en 1979. Actuellement, on est dans une phase effectivement de renouvellement et du dialogue de la charité et de la vérité. Parce que nous sommes dans un contexte tout à fait différent par rapport à 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait encore le rideau de fer qui séparait l'Europe, une grande partie des chrétiens d'Europe centrale et orientale vivaient dans des régimes autoritaires et qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des contacts avec les chrétiens d'Occident. Maintenant, nous sommes dans une situation différente qui n'est pas encore stabilisée. Et il faut du temps pour que, comme le disait Saint Jean-Paul II, nous puissions apprendre à respirer à deux poumons. C'est le but de cette rencontre, de renouveler l'inspiration qui a présidé à la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras pour que nous puissions véritablement respirer à deux poumons et aussi appliquer ce que dit souvent le pape François, répète souvent le pape François dans ses déclarations écuméniques, c'est de favoriser un échange des dons. On a peut-être maintenant, par rapport à il y a 50 ans, une autre conception de l'écuménisme. L'écuménisme ou l'unité des chrétiens ne se fera pas par la recherche d'un plus petit commun dénominateur, par des compromis, mais en échangeant les dons réciproques de nos églises. Le pape François insiste particulièrement dans cet échange de dons sur ce que nous pouvons nous apprendre des chrétiens orientaux, des orthodoxes, en particulier en ce qui concerne la conciliarité, et ce que eux aussi peut-être peuvent apprendre de l'Église catholique.
Alors justement, cette facilité des contacts aujourd'hui, après justement la fin de la guerre froide, est-ce que ça nous amène à nous dire qu'il n'y a plus d'excuses finalement à ne pas s'entendre ?
C'est-à-dire que l'unité, comme le Christ appelle à l'unité dans sa fameuse prière, « Utunum sint », qu'il soit un, ça sera d'ailleurs la devise du pèlerinage du pape François en Terre Sainte, qu'il soit un pour que le monde croie. L'unité n'est pas un but en soi, c'est pour l'évangélisation, c'est pour la crédibilité même du message chrétien, de l'évangile, que les chrétiens doivent se rapprocher pour que leur témoignage d'unité soit un signe au monde d'aujourd'hui. Et donc effectivement, il n'y a jamais eu d'excuse en fait à nos divisions. Il y a malheureusement le péché et l'incompréhension et ce que le grand théologien Yves Congar appelait l'estrangement, le fait que nous soyons devenus les uns et les autres étrangers. Il s'agit aujourd'hui de nous rapprocher pour nous redécouvrir comme frères. C'est le but de ce pèlerinage.
Alors, on a évoqué tout à l'heure donc, le passage à un certain moment au dialogue théologique. Quels sont aujourd'hui, sans voir les choses vraiment dans le détail, ça nous mènerait trop loin, quelles sont les pierres d'achoppement majeures, tout d'abord peut-être avec les orthodoxes?
Oui, aujourd'hui le dialogue théologique avec les orthodoxes porte sur la question de la primauté dans l'Église, des relations entre primauté et conciliarité ou synodalité. La prochaine assemblée de la commission mixte de dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes portera sur cette grande question des relations entre primauté et conciliarité. Parce que effectivement, c'est la principale pierre d'achoppement entre catholiques et orthodoxes.
Alors, cette question de l'écuménisme fait votre quotidien. Autant côté catholique que côté orthodoxe, est-ce que vous rencontrez des personnes hostiles, finalement, profondément hostiles à ces avancées et à ce travail?
Alors, il y a toujours, évidemment, des gens qui insistent plutôt sur l'identité du chrétien, qu'il soit occidental ou oriental, mais justement l'écuménisme, ce n'est pas un refus de son identité, c'est s'enrichir et enrichir les autres de sa propre identité et aussi éventuellement s'enrichir de toutes les richesses qu'ils peuvent nous apporter. L'écuménisme, encore une fois, ce n'est pas la recherche d'un compromis, mais c'est s'enrichir et enrichir les autres de sa propre identité. Et donc, il n'y a pas de contradiction, en réalité, entre la recherche d'unité et la recherche d'une identité, comme certains le craignent. Aujourd'hui, je pense que la plupart des chrétiens sont convaincus, grâce à toutes les avancées théologiques et spirituelles du XXe siècle, de la nécessité de l'unité. Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement quand le Christ lui-même nous demande d'être un pour témoigner? Il y a maintenant une forte aspiration pour la plupart des chrétiens à l'unité, mais nous avons besoin de signes pour être encouragés dans cette voie. Et je pense que la rencontre entre Paul VI et Athénagoras a été un de ces signes majeurs de cette unité qui est maintenant en marche, et la rencontre du pape François avec le patriarche écuménique Bartholomée pourrait être un nouveau signe, ou en tout cas nous encourager à aller de l'avant dans cette recherche de l'unité.
Le père Destivelle, en charge du dialogue avec les orthodoxes au sein du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, interrogé par Bernard de Cotigny. J'ajoute qu'une rencontre de prière pour la paix en Terre Sainte aura lieu ce mardi à Notre-Dame de Paris, en présence de Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques catholiques de France, et du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes. Au cours de sa brève visite en Terre Sainte, le souverain pontife rencontrera également des réfugiés de Syrie et d'Irak en Jordanie. Les Palestiniens attendent eux aussi beaucoup de ce voyage. Lors d'une conférence de presse, le père Jamal Kader, chargé de l'étape palestinienne, s'est dit convaincu que le pape François dira quelque chose pour défendre ceux qui souffrent de l'occupation et des humiliations. Les autorités israéliennes entendent quant à elles expliquer au Saint-Père ce qu'il se passe politiquement dans la région. Quant à la Jordanie, elle veut montrer qu'elle est une oasis de paix et de stabilité dans une région en crise. Le pape François, qui prendra deux bains de foule à bord d'une simple voiture découverte à Amman et à Bethléem, sera accompagné d'un dirigeant religieux musulman et d'un rabbin. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, justement, célèbre ses 50 ans d'existence. Il a été fondé par Paul VI en 1964. À cette occasion, le dicaster a publié un document intitulé « Dialogue de vérité et de charité, orientation pastorale pour le dialogue interreligieux ». Un guide pour les pasteurs et les fidèles, basé sur des indications et des expériences concrètes pour poursuivre ce long chemin. En un demi-siècle, le Conseil pontifical a parcouru un long chemin, en cherchant à développer la rencontre avec les personnes d'autres religions. Si l'on évoque souvent les grandes rencontres comme à Assise et les conférences communes, notamment avec le monde de l'islam, un aspect plus méconnu de ce dialogue concerne les relations intermonastiques. Le DIM, dialogue interreligieux monastique, est né à la fin des années 1970. Il permet des échanges entre monastères chrétiens et religions orientales. Sœur Marie Pinloup, bénédictine du monastère Sainte-Scolastique à Urte dans les Pyrénées-Orientales, est la responsable du DIM pour la France. Elle revient sur ses années fructueuses d'échanges spirituels.
Ça a débuté en 79, des missionnaires chrétiens qui étaient venus au Japon. Ils voulaient montrer un aspect plus contemplatif du christianisme et ils ont participé à l'organisation d'un voyage d'une trentaine de moines bouddhistes japonais en Europe. Et c'est en 1983 que des moines et des moniales chrétiens ont été invités pour la première fois à aller au Japon.
L'aspect monastique dans le dialogue interreligieux est moins connu. En quoi cette dimension contemplative est importante pour ce dialogue ?
C'est important pour toujours pareil, la recherche de la paix, établir la paix, le dialogue entre les cultures, les religions, s'apprécier les uns les autres. Je crois qu'on doit être d'abord, autant qu'on le peut, solide dans sa propre vocation chrétienne pour nous, mais je crois que ça nous fortifie aussi dans notre vie de foi, de voir aussi qu'il y a d'autres moines, d'autres nonnes bouddhistes par exemple, qui sont à la recherche de la vérité, de l'absolu. Et nous pouvons échanger sur des points qu'ils ont, eux, positifs, et eux, ils peuvent prendre des points positifs chez nous aussi. Attention, sans faire de syncrétisme, bien sûr.
En quoi ce contact avec ces moines et ces moniales orientaux a été enrichissant pour votre foi de bénédictine ?
Moi, c'était toujours la parole de l'Évangile, aller enseigner à toutes les nations, et puis voir que l'Esprit Saint travaille très fort aussi chez ces gens-là. L'Esprit est présent là. Ce sont des semences du Verbe, faut pas l'oublier, je crois.
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a donc 50 ans. Oui. Quel regard portez-vous sur ce demi-siècle de dialogue ?
Très positif, bien sûr, hein, très positif. Il y a eu beaucoup d'avancées de fait. Cet avenir pour le dialogue, c'est vraiment avancé. Nous devons rappeler que nous avons une tâche d'église à accomplir. Hein. C'est pas pour notre propre gouverne non plus. Nous sommes là à agir pour l'église. Et il faut que les moines s'engagent pour ce dialogue. Nous avons à prendre un développement de la théologie maintenant.
Quand on parle de dialogue interreligieux, on évoque souvent les relations entre les chrétiens et les musulmans. Est-ce que les religions orientales ne sont pas un peu délaissées, entre guillemets, parfois ?
On en parle beaucoup en France, mais nous, le DIM, par exemple, nous avons, oui, collaboré avec des musulmans en France, bien qu'ils ne soient pas moines et moniales, mais nous collaborons énormément avec les moines zen bouddhistes japonais, et puis l'Inde, avec les moines hindous. Nous-mêmes, nous sommes allés deux fois en Inde. Les voyages en Inde, c'est toujours pareil, cet enrichissement de l'autre, ce sens de développer le bien pour l'humanité qu'ils ont, par exemple, dans les temples de Ramakrishna, où ils ont des associations caritatives énormes. Ils couvrent tout ce qui est pour les enfants, les orphelins, pour tout ce qui est au niveau social, médecine, ils ont des hôpitaux gratuits pour les pauvres, etc. Et tout ça, ce sont des religieux qui tiennent ça. Et ça m'a beaucoup appris de voir que on les appelle un petit peu, d'ailleurs, ceux de Ramakrishna, les jésuites de l'Inde, parce qu'ils gouvernent tout ça. Ils ont des universités, etc.
Sœur Marie Pinloup, bénédictine, responsable pour la France du dialogue interreligieux monastique, interrogée par Olivier Bonnel. Dans un message pour le cinquantenaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le pape François invite ce dicastère à poursuivre sa mission avec un élan renouvelé. Une mission, écrit-il, qui peut favoriser la paix et le progrès authentique des peuples. La création de ce conseil a été, selon le pape François, une des décisions importantes de Paul VI dans la foulée du Concile Vatican II. Pour les chrétiens, dialoguer ne veut pas dire relativiser leur foi ni renoncer à l'annonce de l'Évangile, mais l'Église catholique mesure l'importance de la promotion de l'amitié et du respect réciproque avec les différentes traditions religieuses. La volonté de cheminer avec tous les hommes est particulièrement essentielle à notre époque. Le roi de Bahreïn a été reçu ce lundi matin au Vatican. Hamad bin Isa al-Khalifa s'est entretenu en privé avec le pape François avant de rencontrer le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, accompagné du secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Parmi les questions abordées au cours des entretiens, la paix et la stabilité au Moyen-Orient et la coexistence pacifique entre toutes les composantes de la société. Le Saint-Siège a insisté sur la contribution positive offerte par la minorité chrétienne de Bahreïn et a remercié le roi de l'intérêt qu'il porte aux besoins de la communauté catholique locale. Une cathédrale dédiée à Notre-Dame d'Arabie devrait être construite dans les prochaines années sur un terrain de 9000 m² offert par le gouvernement de Bahreïn, un projet capital pour la péninsule arabique. Entre 100 000 et 140 000 catholiques vivent à Bahreïn, principalement des immigrés venus des Philippines, d'Inde, du Bangladesh ou du Sri Lanka. À Bahreïn, l'islam est religion d'État et le prosélytisme est interdit, mais la liberté de culte dans les lieux privés est garantie.
Thank you.
Le rapport annuel de l'autorité d'information financière du Saint-Siège, le deuxième depuis la création de l'AIF, a été présenté en conférence de presse ce lundi à la mi-journée. Cet organisme créé par Benoît XVI est chargé de veiller à la prévention et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le directeur de l'AIF, René Brulart, un expert suisse de la lutte contre le blanchiment, s'est félicité de l'efficacité du nouveau dispositif de contrôle renforcé depuis l'an dernier. Selon ce rapport, plus de 200 transactions suspectes ont été signalées pendant l'année 2013. Antonino Gallofaro.
Un chiffre, 202 transactions suspectes ont été signalées en 2013 au Vatican, contre 6 seulement l'année d'avant. Le directeur de l'AIF a expliqué cette très forte augmentation par le développement des outils légaux à disposition de l'autorité, mais aussi par une performance accrue des entités qu'elle supervise. 5 cas ont été transférés au promoteur de justice du Vatican en vue d'une enquête judiciaire. L'année 2013 a été positive et stimulante selon les mots du directeur de l'AIF. Celle-ci a pu asseoir son autorité grâce aux différents textes légaux promus entre juillet et octobre de l'année dernière, comme les deux motu proprio du pape l'été dernier. Son autorité se concentre autour de deux piliers, la supervision et l'information financière. L'inspection de l'Institut pour les œuvres de religion en début d'année a été l'une des actions concrètes de l'AIF. Elle s'est déroulée en trois phases. Un questionnaire d'abord envoyé à Lior, l'inspection en elle-même ensuite dans les locaux de la banque durant quelques semaines et enfin le rapport d'ici quelques jours ou semaines. Il s'agit de vérifier si les mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont bien mises en œuvre. Le plus grand accomplissement de l'AIF, selon son chef, son entrée dans le groupe Egmont, ce groupe qui rassemble les centrales d'annonces anti-blanchiment de 139 pays. L'autorité d'information financière a ainsi été reconnue au niveau international, s'est réjoui son directeur.
L'apport irremplaçable des laïcs, le rôle incontournable de la famille pour transmettre la foi, la place centrale de la paroisse pour vivre la foi, autant de thèmes abordés par le pape François dans le discours qu'il a remis ce lundi matin aux évêques mexicains venus au Vatican pour leur visite à Limina. Le Mexique est le deuxième pays d'Amérique latine par le nombre de catholiques après le Brésil. Ce lundi matin, le Saint-Père a dénoncé l'extrême violence qui ravage ce pays et demandé aux évêques d'être proches du peuple dans les souffrances actuelles, en particulier le trafic de drogue et l'immigration. Xavier Sartre.
Le pape n'a pas manqué de saluer l'engagement de l'Église mexicaine auprès des plus nécessiteux, des chômeurs, de ceux qui travaillent dans des conditions inhumaines, de ceux qui n'ont pas accès aux services sociaux, des migrants à la recherche de meilleures conditions de vie et des paysans. Il a également rendu hommage au travail qu'elle accomplit auprès des victimes du narcotrafic et des groupes sociaux les plus vulnérables. Autant d'actions qui donnent de la crédibilité à l'Église et de l'importance à la voix des pasteurs. S'il n'appartient pas à l'Église d'apporter des solutions techniques ou d'adopter des mesures politiques qui dépassent leur champ pastoral aux multiples violences qui affligent la société mexicaine, l'Église doit cependant favoriser un esprit de concorde au travers de la culture de la rencontre, du dialogue et de la paix. Autrement dit, faire appel à l'esprit de Notre-Dame de Guadalupe, qui a contribué à la réconciliation et à la libération intégrale du peuple mexicain, sans l'épée et sans la force, mais avec l'amour et la foi. Pour cela, les évêques doivent s'appuyer sur les laïcs et sur la famille, cellule de base de la société, pour transmettre les valeurs de l'Évangile. L'objectif est bien que les jeunes voient de leurs propres yeux afin qu'ils évangélisent à leur tour. Ce n'est que comme cela que la foi sera plus résistante au coup du sécularisme.
À noter par ailleurs que la présidence du CELAM, Conseil épiscopal latino-américain, effectue jusqu'au 29 mai sa visite annuelle au Vatican. La délégation qui sera reçue vendredi par le pape François doit rencontrer les membres de la Curie romaine et de la Secrétaire d'État. Chaque année, le CELAM présente aux différents dicastères les projets et les priorités pastorales de l'Église en Amérique latine et vient se mettre à l'écoute des suggestions du magistère pontifical. Mardi, le président du CELAM évoquera en conférence de presse les grands thèmes du développement, de l'intégration et de la paix en Amérique latine. Je vous le disais, l'actualité était encore une fois très chargée ce lundi au Vatican. Le pape François a reçu dans la matinée le premier ministre polonais Donald Tusk, qui a également rencontré le cardinal Parolin et Mgr Mamberti. Au cœur des entretiens, la récente canonisation de Jean-Paul II et son impact sur la nation polonaise. Le premier ministre s'est par ailleurs réjoui de la visite que le Saint-Père effectuera en Pologne en 2016 à l'occasion des JMJ. Les échanges ont également porté sur la situation socio-économique de la Pologne. Des deux côtés, on s'est déclaré préoccupé par les tensions persistante en Europe de l'Est, une allusion bien sûr à la crise ukrainienne. Le Vatican, toujours ce lundi, a annoncé la nomination d'un archevêque argentin au sein d'une commission de la Congrégation pour la doctrine de la foi en cours de création. Cette commission sera chargée d'examiner les recours d'ecclésiastiques mis en cause pour des délits graves. Des plaintes se sont multipliées depuis le début des années 2000 contre des prêtres, entraînant l'ouverture d'enquêtes nombreuses de la justice ecclésiastique. Mais certains contestent ces accusations comme infondées et calomnieuses. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.